autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, d'ici et d'ailleurs, pour porter un autre regard sur nos migrations. Comment étudier les mobilités humaines sur le temps long et dans toute leur diversité? À partir de quelles sources retracer et décrire toutes ces migrations qui, depuis les origines, ont façonné notre humanité? Autant de questions ouvertes par l'Institut Convergence Migration, par des chercheurs de toutes disciplines et de tous horizons, qui seront réunis demain pour une journée scientifique d'échange aux sources de la migration. Nous voulons faire écho pour tordre le cou aux idées reçues et aux fantasmes en tout genre. Nous sommes en direct avec le directeur de l'Institut Convergence Migration, le démographe et anthropologue François Héran, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société. Nous sommes également en compagnie de l'épidémiologue Thierry Wirth du Muséum National d'Histoire Naturelle. Autour de la question comment porter un autre regard sur nos migrations d'hier à aujourd'hui, bienvenue. Ada, les garçons sont partis. Ils ont pris la mer. Ils sont partis en pirogue. Suleyman, Cher, tous. Extrait d'Atlantique, le très beau film en Wolof de Mati Diop pour nous ouvrir à d'autres réalités, à d'autres échelles de temps aussi. Pour nous interroger aux sources des migrations, c'est le titre de la journée scientifique de demain, à l'Institut Convergence Migration dont vous êtes le directeur. Bonjour François Héran.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous malgré un emploi du temps plus que chargé. Vous êtes démographe et anthropologue, professeur au Collège de France où vous êtes titulaire de la chaire Migration et Société. Vous êtes aussi un formidable empêcheur de penser en rond tous ces phénomènes migratoires. C'est pour décrire précisément la réalité de ces phénomènes, sortir des fantasmes et des idées toutes faites sur le sujet que vous organisez, entre autres, cette journée scientifique d'échanges tous azimuts entre chercheurs alors de tous horizons et de toutes disciplines qui travaillent sur cette question. Pourquoi ? Pour mettre en commun les sources les plus fiables pour étudier des phénomènes aussi complexes et aussi divers que nos migrations.
Alors, c'est vrai que cette journée est interdisciplinaire, mais elle est quand même centrée sur une discipline qui est l'histoire. Et ce sont les historiens, parce qu'en fait il y a toutes les disciplines dans cet institut des migrations, mais ce sont les historiens qui ont organisé cette journée. Et parmi nos partenaires, nous avons 7 ou 8 partenaires institutionnels, il y a l'école pratique des hautes études, à laquelle M. Wirth appartient.
Exactement.
Et qui est elle-même une institution très pluridisciplinaire, avec des sciences religieuses, des sciences humaines, des sciences sociales, de l'histoire, mais aussi des sciences de la vie, qui ont toujours été très importantes. Voilà.
Parce qu'il faut cette interdisciplinarité-là se coltiner cette question, ces multiples questions autour des migrations.
Oui, parce que les migrations, la migration est par définition un phénomène multidimensionnel. Évidemment, il y a une dimension géographique, il y a une dimension économique, bien sûr, il y a une dimension juridique, les questions de statut qui sont complexes. Il y a la contribution, évidemment une réalité démographique. Et dans la démographie, des populations et dans les déplacements de populations, eh bien, on remonte le plus loin possible. Nous avons dans cet institut d'immigration une définition très large des migrations.
C'est quoi votre définition?
C'est toutes les personnes qui changent de territoire. Alors, ce peut être des territoires administrativement constitués. Évidemment, la plupart du temps, ce sont des pays. Et il faut que cette migration soit relativement durable. Ce n'est pas simplement la circulation entre domicile et travail journalière, qui est intéressante à étudier, bien entendu. Mais alors, c'est vrai que, notamment, ce sont les historiens, néerlandais, américains, qui ont essayé de dire, mais écoutez, il faudrait promouvoir une définition beaucoup plus générale de la migration. On a la migration officielle, c'est une personne née étrangère à l'étranger, qui franchit une frontière, qui s'établit dans le pays de destination pour une durée d'au moins un an. Ça, c'est la définition internationale de l'ONU. Quand on parle de migration internationale, c'est de cela qu'il est question. Mais en fait, il y a des quantités d'autres mobilités. Et quand on fait la somme de toutes les mobilités, par exemple, les soldats qui vont passer des années guerroyer à l'étranger, et pendant des siècles, les principales migrations étaient des migrations guerrières, par exemple. Les pèlerinages peuvent être des migrations considérables, même si elles sont temporaires, mais elles duraient très longtemps autrefois. Tous les déplacements qu'il y a entre la métropole et l'outre-mer, qui sont sont peut-être pas des migrations internationales, mais qui avaient quand même été traitées dans les années 60 par un bureau qu'on appelait le bureau des migrations des départements d'outre-mer. Mais vous avez voilà, tous les motifs possibles de migration. Je sais pas, les juifs qui viennent, vont s'installer en Israël, qui font leur alia, voilà encore un exemple de migration. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le spectre des migrations, des plus volontaires aux plus forcés, jusqu'à l'esclavage compris. Donc tout ça, ce sont des déplacements plus ou moins volontaires, plus ou moins forcés. Et pendant longtemps, d'ailleurs, les déplacements forcés étaient beaucoup plus nombreux que les déplacements volontaires, en tout cas au moins depuis le 16e siècle.
Alors toutes ces histoires de déplacements, forcés ou non, de migration, de tous les humains, arpenteurs, explorateurs, voyageurs, esclaves, mais aussi conquérants, que nous sommes, c'est aussi, elle peut aussi se lire à travers l'histoire de beaucoup d'autres vivants, tous les autres vivants qui nous accompagnent jusqu'au plus petits, jusqu'aux invisibles. Bonjour Thierry Wirth.
Bonjour Caroline.
Merci donc d'être en direct avec nous. Alors vous êtes épidémiologue, chercheur en microbiologie évolutive et environnementale et génomique des populations au Muséum, et François Héran vient le dire, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous allez ouvrir la première session de cette journée de réflexion. La première session s'intitule « Une diversité de sources hein, » pour décrire les migrations. On a compris que c'était extrêmement large, les migrations. Et votre sujet d'étude est ce avec quoi vous allez ouvrir cette journée, c'est les bactéries. Oui, les bactéries comme traceurs des migrations. Donc les bactéries racontent notre histoire.
Oui, exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle nos petits compagnons. Donc il y a beaucoup de bactéries qui nous suivent dans toutes nos pérégrinations. Ça peut être au niveau de l'estomac, il y a des bactéries qui sont dans l'estomac, qui sont transmises de la mère à l'enfant, lors de la phase orofécale ou en bas âge. Donc ces bactéries vont en fait suivre les migrations hors d'Afrique, par exemple. Dans le Tof Africa, il y a 60 000 ans, l'homme moderne a quitté l'Afrique, la corne de l'Afrique. En fait, cette bactérie contient en elle aujourd'hui, dans ses génomes, l'information de notre Out of Africa. On est capable, en analysant les génomes de ces bactéries, de dire, tiens, regardons cela. Et effectivement, ça correspond à l'histoire de l'homme qui a plus de 60 000 ans. C'est également vrai, par exemple, pour la tuberculose.
Que vous avez particulièrement étudié. Vous avez découvert des choses autour de cette bactérie,
Un de mes domaines de recherche favoris en ce moment. Effectivement, ça c'est des travaux d'un collègue qui travaille en Suisse, Sébastien Gagneux. Il a notamment mis en parallèle l'arbre de vie, si on veut, de l'espèce humaine. Et lorsqu'on compare la phylogénie des bactéries, la tuberculose, avec celle de l'Homo sapiens, eh bien, on voit qu'elles se ressemblent beaucoup. Elles ont les mêmes racines ancestrales en Afrique, et elles ont les mêmes lignées dérivées aux mêmes endroits. Donc en fait, c'est des histoires répétées. Mais là encore, c'est normal, la tuberculose, c'est un pathogène inféodé à Homo sapiens dans nos poumons. Et donc, on est un hôte relativement strict. Et donc là encore, on le transmet et il suit notre histoire. Donc tout ça, c'est gravé en fait dans les génomes.
Et c'est d'actualité, évidemment, cette question des bactéries qui voyagent avec nous, des virus. C'est notre histoire qui se perpétue, qui se continue.
Exactement. Alors ce qui est si intéressant, c'est qu'on a des informations multi-échelles temporelles. Par exemple, on a effectivement ce que je viens de dire, l'Out of Africa. Nous, c'est des signatures du néolithique dans les génomes bactériens, les périodes modernes, même des choses plus récentes à l'échelle du 19e siècle, du 20e siècle. Sur les séquences de tuberculose, on peut par exemple voir les effets de la chute du mur de Berlin, par exemple.
La tuberculose, qu'est-ce qui s'est passé moment de la chute du mur de Berlin?
Eh bien, il y a eu un regain démographique très majeur de la tuberculose qu'on capture sur son génome. C'est-à-dire qu'après la chute du mur, l'aide de santé a fortement chuté.
Du côté des pays d'Europe de l'Est
Essentiellement, oui. Donc ça a entraîné des soins, des prises de médicaments, d'antibiotiques qui ont cessé, qui ont été ou du moins irrégulières, ce qui a entraîné des résistances et en fait une poussée démographique de la tuberculose dans les pays de l'ex-URSS.
Comment lire notre démographie à travers nos bactéries autour de la question comment changer de regard sur nos migrations, comment les étudier du coup sur le temps long et à partir de toutes ces sources, nouvel éclairage d'une généticienne des populations, Evelyne Heyer, qui était récemment notre invitée autour de son dernier ouvrage L'Odyssée des gènes, qui retrace aussi à travers notre ADN donc les odyssées de l'humanité. Evelyne Heyer a donc forcément une question pour vous deux, mais aussi un petit message personnel qui vous est destiné. François Héran, on l'écoute.
Alors la première chose, que je suis une fan et que j'aime vraiment beaucoup tout ce que vous faites. Et la deuxième chose, c'est que moi je travaille plutôt sur les migrations plus anciennes et que pour ces migrations plus anciennes, on ne voit pas vraiment de raison économique des migrations. On voit plutôt un souhait de curiosité, de découverte et quelque chose qui semble vraiment d'être inhérent à l'espèce humaine et que cela a été visiblement un moteur qui nous a amené à découvrir le monde dans son entier. Or, je trouve que les études migratoires actuelles avec les modèles économiques, les push-pull, etc., ont tendance à sous-estimer cette soif humaine de juste de découverte, à toujours essayer de trouver des justifications en général économico-politiques aux migrations, en oubliant un peu cette étincelle universelle humaine qui est cette curiosité et ce souhait d'aventure.
Votre réaction, François Héran, à cet éclairage deviné hier?
Mais je crois qu'Evelyne a raison de effectivement critiquer la typologie officielle des motifs de migration, qui est la typologie des titres de séjour, hein, qui n'est pas propre à la France, qu'on retrouve un peu partout dans le monde, qui est migration économique, migration familiale, migration de refuge, migration de travail, enfin bon, qui fait partie des migrations économiques. Mais il y a aussi des migrations estudiantines. En ce moment, par exemple, en France, le motif de titre de séjour le plus important, eh bien, ce sont les étudiants. C'est donc une migration de formation qui peut correspondre en partie à cette notion de curiosité. Enfin, le droit d'aller se former ailleurs dans une université de qualité, etc., qui est une espèce de quasi-droit, il n'est pas reconnu juridiquement, mais est un ressort considérable. Ce qui a le plus augmenté dans le monde depuis 4 ou 5 décennies, c'est l'immigration des étudiants internationaux.
Se réjouir, pour le coup.
Alors, c'est un peu compliqué, parce que la France fait partie des 4 ou 5 pays qui essaient d'attirer des étudiants, mais en même temps, on ne voudrait pas attirer autant d'étudiants africains ou maghrébins que cela. D'où l'idée, vous avez vu, de les taxer, qui a été ensuite contrée et contrecarrée par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré que la gratuité de l'enseignement s'appliquait aussi à l'enseignement supérieur, et donc, mais qu'il était quand même raisonnable de demander certains tarifs. Enfin bon, donc on est pour l'instant dans le doute, mais oui, les migrations estudiantines, c'est quelque chose de très important actuellement.
Alors, il y a un autre. On ne sait pas, François Héran, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne met jamais ça en avant dans les chiffres.
Dans les derniers chiffres publiés donc en janvier 2020 par le ministère de l'Intérieur, pour la première fois, il y a eu 90 000 titres de séjour pour des étudiants internationaux non européens, hein, qui ont été distribués, et c'est plus que les différentes formes de migration familiale, de regroupement familial réunis, qui sont à 80 000 et quelques. Donc on a dépassé pour la première fois, la migration estudiantine a dépassé la migration familiale.
D'où l'importance que vous faites, hein, de s'attacher aux chiffres, de regarder la réalité des faits.
Oui, parce que, alors évidemment, à travers ces catégorisations officielles, etc., il y a eu des enquêtes pour interroger directement les gens sur leurs véritables motivations. Et ces motivations, elles sont très complexes. D'abord, les motifs qui sont cloisonnés dans la statistique officielle se mélange. Peut y avoir des migrations qui sont à la fois économiques et de refuge, et qui en même temps se traduisent par une mobilité estudiantine. Enfin bon, tout ça est... Alors, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, il y a des migrations d'émancipation. Par exemple, les femmes qui veulent s'émanciper, retrouver une certaine liberté, échapper au mariage forcé, je prends cet exemple-là. Ce sont des choses qui apparaissent tout à fait. Mais actuellement... quand on enlève le cas un peu particulier des étudiants, ce qui domine actuellement, ça n'est pas la migration économique dans un pays comme la France. Ce sont des migrations qui sont en fait liées à la logique des droits. Le regroupement familial, le refuge, il y a aussi la possibilité de multiplier les preuves de présence pour obtenir au bout d'un certain temps un titre, sans quoi il serait disproportionné de vous le refuser. Donc, si vous voulez, la grande majorité des mouvements migratoires qui entrent en France, ce sont des mouvements de plein droit. C'est-à-dire que l'explication utilitariste des migrations, elle ne marche plus. Elle ne vaut que pour une partie des migrations. Et d'ailleurs, ça s'explique en partie parce que nous l'avons voulu en 1974, après la guerre du Kippour, la crise du pétrole, etc., nous avons arrêter la migration de travail direct, hein, c'est-à-dire l'introduction directe de travailleurs, sauf pour quelques exceptions. Nicolas Sarkozy avait réintroduit sa fameuse immigration choisie, mais vraiment à dose homéopathique. Donc du coup, ayant interdit la migration de travail, nous avons obtenu comme résultat, qui n'était pas voulu, que l'essentiel des migrations ne soit plus lié au mouvement de l'économie et soit plutôt lié à la logique des droits ou à la logique des études et de la formation. C'est ça la situation actuelle de la France. Et donc quand des partis, par exemple, inscrivent dans leur programme l'idée « Ah, il faudrait que désormais nous accueillions la migration qui soit strictement ajustée à nos besoins. » Hein, c'est quelque chose qu'on lit régulièrement dans les programmes. Ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité, parce que la logique des droits qui s'est affirmée avec les conventions internationales, avec le droit de l'enfant à vivre avec ses parents, le droit au regroupement familial, etc., tout ceci a multiplié des formes de migration qui n'ont plus rien d'utilitariste. Alors bien sûr, une fois que les personnes sont entrées sur le territoire, elles se présentent ensuite sur le marché du travail et elles contribuent à l'économie du pays dans des secteurs difficiles, etc.
Mais ce n'était pas le but. Et ça a complètement changé alors qu'on n'a pas intégré finalement cette transformation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les migrations, là j'ai envie de vous soulever la question à nos auditeurs sur Facebook, sont forcés, sont plus souvent volontaires? C'est Mamadou Tiama qui nous pose cette question, qui dit au fond les migrations existent depuis le commencement du monde. Il nous demande si celles d'aujourd'hui sont naturelles, je ne sais pas si on peut parler de migration naturelle, ou provoquées par l'homme pour maintenir les autres peuples en esclaves. C'est un peu compliqué sa formulation, mais est-ce qu'on peut parler de migration naturelle? Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de migration forcée que de migration volontaire?
Si vous voulez, il y a deux mécanismes explicatifs qu'il faut récuser parce qu'ils sont complètement démentis par la réalité des flux tels qu'on on peut l'observer depuis des décennies. Il y a l'idée d'abord qu'il y aurait en quelque sorte un déversement naturel du trop-plein vers le vide. C'est une idée extrêmement répandue. C'est un modèle un peu mécanique. On appelle ça parfois un modèle gravitationnel. Ça fait très chic. C'est que donc les terres
s'en vont
voilà,
vers
les terres les plus terres peuplées vides. Se déverseraient vers les terres les moins peuplées. Et certains disent, combien de fois j'ai lu un des essais de ce genre, disant que l'Europe, avec sa très faible fécondité, avec ses très faibles...
On va être envahis, voilà, c'est ça.
Va créer un appel d'air par le vide, puisque les pays... Or, quand on regarde la réalité des flux... ça ne va pas du tout des pays les plus peuplés aux pays les moins peuplés. Ça ne va pas des pays les plus féconds aux pays les moins féconds. Prenez par exemple le cas de l'Europe. Vous avez en Europe, toute une partie de l'Europe sont les pays des Balkans, notamment les Balkans anciennement communistes. Et vous avez des taux d'émigration considérables depuis ces pays-là. 22% à peu près de la population de ces pays-là vivent à l'étranger. C'est énorme. Alors que vous n'avez même pas 2% des subsahariens qui vivent à l'étranger. L'essentiel de la migration subsaharienne se fait à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne.
C'est de la migration inter-africaine.
Et or, les Balkans... battent les records de basse fécondité, sont des pays qui se dépeuplent, qui perdent de la population, et au lieu d'attirer du monde, au contraire, ils migrent à l'extérieur. Et vous avez des quantités de contre-exemples. Ainsi, il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples, vérifiant ce modèle du trop-plein. Il y a aussi l'idée que les pays, elle est très répandue cette idée, que les pays les plus pauvres, inévitablement, inexorablement, vont se migrer vers les pays les plus riches. Eh bien non, la courbe n'est pas du tout, n'a pas cette forme-là. Quand un pays est trop pauvre, il est trop pauvre pour migrer. Et donc les migrations, par exemple, en provenance du Tchad, du Niger, qui sont parmi les pays les plus pauvres du monde, sont très très faibles. Et les pays qui migrent le plus actuellement dans le monde, c'est les pays qui sont à un niveau de développement moyen.
Si oui, il faut quand même être assez développé pour pouvoir migrer.
Si on classe tous les pays du monde, selon l'indice de développement humain, par exemple, sur une échelle de 10, eh bien, les pays qui émigrent le plus au monde, c'est les pays qui sont au niveau 5-6. C'est le Mexique, c'est les Balkans, c'est l'Albanie, la Géorgie. Ils sont tous à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont ils sont pauvres relativement, mais ils ont quand même suffisamment les moyens de migrer. Donc, si vous voulez, on peut résumer les choses en disant qu'il y a une aspiration à migrer. Ça rejoint ce que vous me disiez. Mais pour que cette aspiration à migrer puisse être satisfaite, il faut en avoir les moyens. Et quand un pays est trop pauvre, eh bien, il n'en a pas les moyens. Et puis, vous avez un cas assez particulier qui est celui des géants démographiques du pays qui, disons, ont plus de 150 millions d'habitants. La Chine, bien sûr, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, les États-Unis. Tous ces pays-là émigrent très peu. Vous n'avez même pas 2%. La migration chinoise, bien sûr, ça fait beaucoup de monde dès qu'il y a quelques Chinois qui émigrent.
Mais proportionnellement,
on n'a même pas 2% de la population chinoise qui vit à l'extérieur. Alors pourquoi? Parce que ces grosses planètes, alors là je reviens à un modèle gravitaire si vous voulez, sont suffisamment nombreuses et peuplées pour que les personnes satisfassent leur besoin d'améliorer leur sort, mais à l'intérieur du pays. Donc l'intérieur de la Chine va migrer sur les côtes, vous avez des migrations internes aux États-Unis beaucoup plus développées qu'à l'intérieur de l'Europe, etc. Donc les gros pays émigrent très peu, c'est surtout les pays moyens, avec un niveau de développement moyen, qui ont les plus forts taux de migration. Alors pour répondre à la question de votre interlocuteur, en gros, il y a des contraintes. Bien entendu, il y a un modèle, mais c'est des choix sous contrainte. Les gens choisissent quand même. On est
des
plus...
choix sous contrainte, bien sûr. Oui. On choisit, il faut aussi avoir les moyens de choisir ce, voilà. que vous, ce que vous venez de dire, François Héran. Je propose de méditer ce que vous venez de dire, parce qu'il y a de quoi s'arrêter là-dessus, en écoutant, là, c'est votre choix musical, Thierry Wirth, un joli choix, Exodus, Bob Marley sur RFI. Oui. Exodus, Bob Marley sur RFI. Thierry Wirth, c'est votre choix musical et c'est un choix, si j'ose dire, parfait pour répondre aussi, parce que c'est à votre tour de répondre à la question de notre auditeur qui finalement demandait s'il y a des migrations naturelles, entre guillemets, ou forcées ou provoquées par l'homme. Est-ce qu'on peut parler, pour l'épidémiologue que vous êtes, de migrations? C'est pas naturel le mot, mais qui soit forcé non pas par les hommes eux-mêmes, mais par d'autres raisons.
Oui, oui, enfin, il y a toutes sortes de migrations. Il y a des migrations purement effectivement d'intérêt, comme le disait, de curiosité, comme le disait tout à l'heure Evelyne Rivière, un peu un monde de la romantique, la Livingstone. Mais en fait, moi, j'ai une vision, bien sûr, un peu différente, plus nuancée, hein, quand on est épidémiologue. Hein. Notamment si on regarde de plus près la peste, tout le monde sait ce que c'est la peste. Hein. Donc il y a eu trois grandes pandémies mondiales, on a une pandémie en ce moment du Covid. Ben, les trois pandémies sont en fait toutes parties de Chine. Une au 6e, 7e siècle, une au Moyen-Âge qui a fait des centaines de millions de morts en Europe. Et c'est quand même lié à la migration le long de la route de la soie, entre autres. Donc c'est quand même des nuisances, entre parenthèses, qui sont réelles, donc liées en fait aux migrations.
C'est-à-dire qu'en fait, la peste, cette épidémie-là, s'est propagée...
Hors de Chine, oui.
Hors de Chine.
À trois reprises.
Et oui. Par les sorties, les migrations, les mouvements de population.
Exactement. Donc là, ce n'est pas forcément une vertu majeure de la migration. Mm-hmm. Je pense qu'on est d'accord. Après, il y a d'autres cas plus récents. Hein. Il y a eu notamment, tout le monde connaît un petit peu, Salmonella typhi. Donc l'agent de la fièvre typhoïde. Donc là, il y a un clone qui s'appelle le clone H58, qui fait un peu le grand remplacement. C'est-à-dire que c'est un clone qui remplace toutes les autres souches qui existent et qui se propage depuis les années 80, multirésistant aux antibiotiques. Et en fait, ce clone est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'il se propage notamment hors d'Inde, notamment au Kenya et aux îles Fidji. Alors c'était un peu surprenant, pourquoi le Kenya, les îles Fidji? Et en fait, c'est parce qu'en fait, c'est la diaspora indienne. Les Fidjiens, un habitant sur deux, ou pratiquement, est d'origine indienne. Le Kenya, tout le monde le sait, c'est une ancienne colonie britannique, d'où il y a encore beaucoup d'Indiens qui sont là-bas, qui ont participé aux travaux sur les voies ferrées. Donc il y a vraiment une espèce d'immigration et de migration constante des gens qui vont voir leurs parents. Mais malheureusement, ils amènent aussi avec eux le fameux pathogène.
Parce qu'au fond, quand on vous suit, les bactéries sont des traceurs de migration humaine. Les migrations humaines, évidemment, transport des bactéries, avec un changement. Alors, on est aujourd'hui dans une épidémie, mais qui est différente. Avec, autrefois, c'était sur les bateaux que ça se transportait. Oui, vous avez parlé de la route de la soie, ou effectivement de migrations, de regroupements familiales, avec les migrants qui sont eux-mêmes les premières victimes tous ces virus, ces bactéries, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sur un autre rythme? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que c'est par avion? On parle de mondialisation, mais en même temps, c'est sur un autre rythme, et ça touche absolument tout le monde sur la planète, qu'on soit migrant ou pas. Sauf que ça touche plus peut-être des villes ou des lieux ou des pays qui sont des plaques tournantes aériennes, en fait.
Exactement. Après, il y a des changements d'échelle. Hein. La globalisation, c'est pas un mot en l'air. Hein. La peste s'est propagée en 17-8 ans dans toute l'Europe. Le Covid s'est distribué mondialement en 3 mois. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, ça, c'est vraiment lié au transport aérien, essentiellement. Beaucoup de monde bouge, beaucoup de tourisme, mais aussi beaucoup de gens travaillent pour des raisons commerciales. Donc, il y a ce qu'on appelle la planète globale. Elle a ses vertus, mais elle a aussi ses inconvénients.
Et parmi les inconvénients, évidemment, la circulation de ces tout petits compagnons de voyage
migrants. Détestables, en l'occurrence.
C'est ça, hein, François Héran.
En vous écoutant, je me disais deux choses. Les exemples que vous citez de migration de l'Inde vers le Kenya, les îles Fidji, ce sont les coulis. Hein. Les coulis, c'est du travail semi-forcé. C'est ce qui a succédé à l'esclavage. Quand l'esclavage a été aboli, quand la traite a été abolie, puis ensuite l'esclavage lui-même, ce qui a tardé beaucoup plus bien, on a fait appel à des contrats drastiques, draconiens, qui étaient en principe de 3 ans, mais qui avaient un tel système d'endettement que les gens étaient obligés de rempiler. Et les coulis, mais aussi la main-d'œuvre chinoise, vous aviez ça aussi dans les Antilles, dans les Caraïbes, on a beaucoup utilisé les coulis venus d'Inde. C'est plusieurs dizaines de millions de personnes. C'est considérable. On estime qu'il y a eu à peu près quelque chose comme 40 à 50 millions de personnes qui ont été déplacées dans tout le continent asiatique et l'océan Indien vers une île comme la Réunion, par exemple, vers les pays d'Afrique. Et c'est un mouvement aussi important que la grande migration européenne vers le Nouveau Monde du 18e au 19e siècle. Donc c'est des mouvements considérables. Alors que la peste, c'est sans doute pas des migrations au sens force, c'est des voyages marchands, c'est une circulation marchande, ce qui n'est pas la même chose que les migrations, même si les voyages duraient des mois. Et je pense que, alors, si on regarde comment s'articule le voyage international et la migration, les voyages internationaux, c'est encore beaucoup plus important que les migrations. La France, avant le Covid, a reçu 90 millions de touristes. Il y a eu 90 millions d'étrangers qui ont franchi la frontière pour visiter la France. Les touristes surtout, mais pas uniquement, les visites familiales, les voyages professionnels, les pèlerinages, etc. Alors que les entrées de migrants, c'est-à-dire des personnes qui vont vraiment s'établir pour se fixer durablement dans le pays, etc., c'est au grand maximum quelques centaines de milliers de personnes. 300 000, 400 000, peut-être 500 000, mais pas 90 millions. Donc en fait, quand on ferme les frontières pour éviter la propagation d'un virus, ça ne sert à rien de fermer les frontières uniquement aux migrants, c'est le voyage international qui est de loin, n'est-ce pas, 200 fois plus important.
Et là, en l'occurrence, vecteur de cette épidémie, ce sont les voyages internationaux, bien plus que les migrants, même si les migrants...
Le virus ne fait pas la différence entre le voyageur et l'international et le migrant. Hein. Lui, il ne sait pas ce que c'est. Ouais.
Oui, c'est ça, notamment. Il y a une étude anglaise qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ils ont séquencé des dizaines de milliers de génomes de ces virus, donc du Covid-19. Et en fait, ils ont montré qu'il y avait plus de 30 000 entrées indépendantes. Essentiellement, d'ailleurs, des Anglais qui sont partis faire du tourisme en Espagne, ou aussi de la France, qui est la deuxième source. Donc, effectivement, c'était pas des travailleurs ou des immigrants qui viennent de loin, c'était plutôt des activités touristiques et des retours de voisinage.
Donc finalement, j'ai l'impression qu'enfin nos migrations, elles nous racontent, elles racontent notre époque, et il y a plusieurs lectures de ces différentes migrations qui nous apprennent différentes choses selon qu'on se place au point de vue épidémiologie, selon qu'on se place du point de vue historique, et puis ça permet de regarder un peu autrement l'histoire des hommes, l'histoire de nos mobilités, ces coulis dont vous parlez. C'est vrai qu'on a un peu oublié ça, on a pris pour habitude de voir que certaines populations habitaient en certains pays, mais voilà, c'est le récit de nos migrations.
Absolument. Et si vous regardez une île comme la Réunion, c'est que quand les Français arrivent au milieu du XVIIe siècle, l'île est complètement déserte. Hein. Il n'y a aucun habitant humain. Et qui a peuplé tout ça? Une petite population française, mais pas absolument considérable, et beaucoup d'apports extérieurs venant de tout l'océan Indien et venant de l'Asie. Donc, alors, il y a eu des esclaves, il y a eu les engagés, on appelait ça les engagés, l'engagisme, c'est ce travail semi-forcé. Hein. Les Anglais ont ça aussi, les indentured workers, ce sont des travailleurs qui avaient un contrat dentelé, et la partie dentelée qui était remise à l'employeur devait correspondre à la partie dentelée remise aux salariés, et c'était ça ces contrats. Donc nous avons déplacé de force beaucoup de monde. Si vous voulez, le critère qu'utilise, alors là je reviens un peu aux sources, le critère qu'utilisent les chercheurs pour faire la différence entre une migration forcée et une migration volontaire, c'est que dans les migrations forcées, c'est l'employeur ou le marchand, le négrier qui finançait le voyage. Alors qu'une migration volontaire, c'est l'individu qui finance lui-même son voyage. Mm-hmm. Donc toute la migration vers le Nouveau Monde, on étudie les registres des compagnies de navigation et on voit qui paie le voyage, qui ne le paie pas, qui est transporté.
Ça, c'est une manière de voir ce qui est forcé, ce qui n'est pas forcé.
Oui, c'est un critère.
Mais dans le cas aujourd'hui de passeurs véreux, comment on fait?
Eh bien, évidemment, c'est un marché. Hein. Mm. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours de la fin du 19e siècle, il y avait dans les journaux conservateurs un peu partout en Europe une critique féroce des grandes compagnies de navigation qui emmenaient les gens vers le Nouveau Monde. Mm. Les critiques qui étaient adressées aux compagnies allemandes, britanniques, françaises, etc., qui transportaient les migrants vers le Nouveau Monde, c'est des passeurs, c'est épouvantable. Ils font leurs affaires sur le dos des pauvres de la terre, etc. Et voilà. Alors, le problème du passage, c'est compliqué parce que c'est un marché. Alors, évidemment, il y a de tout là-dedans. Il y a du crime, il y a de la mafia, mais il y a aussi des gens qui simplement s'entremettent parce que quand il y a une demande qui excède l'offre, forcément, il y a un marché qui se crée. Et là aussi, c'est très, très complexe et on simplifie beaucoup trop les choses d'habitude.
Rivière, pour continuer de ne pas trop simplifier, de prendre en compte cette réalité complexe, de voir aussi une autre lecture pour changer de regard sur nos migrations, nos déplacements de population à travers toutes les sources, notamment celles des microbes et des virus. Que pouvez-vous ajouter?
Je vais juste rebondir par rapport à ces migrations un peu forcées, plus ou moins heureuses ou malheureuses. Hein. Et c'est vrai que notamment la traite des Noirs, c'est un sujet important en Afrique. C'est toujours intéressant de ce qu'on regarde cette fameuse bactérie, Helicobacter pylori.
Qu'est-ce qu'elle dit sur ces déplacements de population forcés, pour le coup?
Donc c'est au XVIIIe siècle, 1730, 1750, à partir de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est remarquable, c'est que ces Noirs africains qui vivent aux États-Unis aujourd'hui ont toujours encore, pratiquement 300 ans plus tard, 400 ans presque, la même bactérie que leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'ils se sont très peu mélangés. Parce que c'est une bactérie qui a l'avantage lorsqu'il y a, par exemple, un couple mixte. Admettons qu'un des membres du couple soit asiatique, l'autre africain. S'ils vivent longtemps ensemble, s'ils s'embrassent régulièrement, ils vont échanger leurs bactéries. Mm-hmm. Et ces bactéries-là, en fait, elles vont recombiner. En fait, ce qu'elles vont faire, elles vont échanger leurs gènes. Donc, on va avoir des bactéries patchwork. Et donc, on sera, un couple mixte. Or, il se trouve que la plupart des Noirs africains qui vivent aux États-Unis ont toujours encore la même bactérie quasiment que leurs ancêtres. Ça veut dire qu'il y a eu peu d'introgression de gènes,
peu de métissage.
Et c'est ce que nous dit la bactérie aussi. Donc
c'est aussi une autre lecture des Afro-Américains qui peuvent se dire Afro-Américains.
Exactement. D'autant plus que leur bactérie l'est aussi.
La ligne de couleur est très difficile à franchir aux États-Unis. Dans d'autres pays, elle a été franchie plus aisément. On a des pays où les minorités noires issues de l'esclavage se sont un peu diluées dans la population. Ça a été le cas dans le monde arabe, même si, par exemple, au sud du Maroc, vous avez encore des populations qui sont assez typées, mais auxquelles il faut surtout pas dire qu'elles sont descendantes d'esclaves, parce que c'est la suprême injure.
Donc il faut faire attention à tout, attention à nos lectures trop rapides, attention aussi à nos modèles, à nos représentations. J'ai envie de vous faire écouter autour de la question comment changer de regard sur nos migrations, donc celles d'hier comme celles d'aujourd'hui, même celles de demain. Un nouvel éclairage en forme de question soulevé par le géohistorien Christian Grataloup, pionnier et défricheur de notre histoire monde, auteur entre autres de l'invention des continents et de l'atlas historique du monde. On l'écoute.
C'est vrai que l'homme est migrant.
au mot ambulante, on a souvent défini. Donc, ça, c'est rien d'original de dire qu'on représente un homme. Le modèle, j'ai en tête le modèle graphique évolutionniste où on voit le singe qui se dresse, etc., tel qu'au 19e siècle, on l'a représenté avec au bout l'homme qui marche. C'est toujours de gauche à droite, c'est dans le sens de notre écriture. Donc, on a bien l'élément du progrès qui apparaît là derrière et l'idée que le progrès, c'est de bouger. Mais en même temps, on est constamment soumis à une forme de préservation du groupe, de volonté de souverainisme, on dirait aujourd'hui. Et donc, la migration, c'est ce qui franchit la différence. Ce matin, je suis venu de la Côte d'Azur, j'ai pas migré. Ça n'a pas de sens. Inversement, je serais venu d'Algérie où le terme de migrant aurait pu commencer à prendre sens. Donc, il s'agit de franchir une discontinuité, de franchir une limite que des sociétés sont imposées. Aujourd'hui, c'est la frontière, mais ça peut prendre des tas de formes, cette discontinuité. Donc, le migrant, c'est celui qui n'est pas du groupe auquel il va tenter de s'agréger ou être de fait agrégé plus ou moins de force. Donc, ça, c'est quelque chose d'absolument universel historiquement. Et ne peut s'éteindre que s'il n'y a plus qu'une seule société humaine. Ce qui fait que nous nous déplacerons, bien sûr, au sein de cette société, comme on se déplace en France, mais il n'y aura plus de migrants. Est-ce que c'est une perspective que les spécialistes des migrations envisagent ?
Est-ce que c'est envisageable, François Héran, même si on le sait bien, la période aujourd'hui, elle est plutôt au rétrécissement du monde et à un moindre déplacement,
en ce moment,
confinement des populations.
Nous sommes plutôt à la fermeture des frontières. Mais en fait, on s'aperçoit que ces frontières nationales entre pays plus ou moins souverains donc une valeur toute relative, parce que ce que nous essayons d'établir maintenant, c'est les frontières entre tout le monde. La distance sociale, les masques sont une espèce de généralisation de la frontière. J'avais été assez amusé parce que Philippe de Villiers avait un jour dans une interview dit « Ouais, formidable, le retour de la frontière est partout, les gestes barrières sont des gestes frontières » et il célébrait ce retour de la frontière. Mais en même temps, comme il s'occupe beaucoup du Puy du Fou, qui est il exigeait la réouverture du Puy du Fou à tous les visiteurs internationaux. Et effectivement, c'était assez drôle. J'ai regardé sur le site. Ils étaient très fiers de montrer que leur public était de plus en plus international. Leur site est traduit en chinois, en russe, en anglais. Il y a une contradiction totale entre cette exaltation, cette célébration des frontières, n'est-ce pas, qui sont censées nous protéger, et en même temps le fait que nous vivons grâce aux voyages internationaux, grâce à la circulation internationale. Je rappelle que les trois quarts des entrées du Louvre, c'est des étrangers, que la moitié des nuitées d'hôtels en France dans l'année, c'est des étrangers. Et que ce que nous expérimentons en ce moment, c'est justement le fait qu'un monde où on stoppe, où on arrête tout le monde aux frontières, est un monde en fait invivable.
Parce qu'en plus, on arrête tout le monde aux frontières, mais pas les bactéries, pas les virus,
Des secteurs entiers d'activités absolument considérables, la culture, le tourisme, les rencontres internationales, etc., tout ne peut pas se faire à distance, et tout ça est stoppé. Et donc, c'est une très grande expérience que nous vivons en ce moment. Donc non, les spécialistes, pour répondre à la question de M. Grataloup, ne sont pas assez naïfs pour penser qu'un jour il y aura une sorte de société cosmopolite unique sans frontières. Il y a tellement d'intérêts qui sont attachés à la souveraineté. Il y a des histoires complexes qui se sont cristallisées. Ça va être difficile. Mais moi, je ne considère pas que... Alors, il n'y a pas de frontières naturelles, ça, on est d'accord. Il peut y avoir des fleuves ou des montagnes qui nous aident à avoir des frontières qui soit nous font faire des économies, soit au contraire sont plutôt difficiles à surveiller. Mais il n'est pas naturel qu'il y ait des frontières. Les frontières de la France sont complètement artificielles. Je reprends volontiers ce qu'a écrit Eugen Weber, qui est un grand historien américain qui a publié en 1986 un très grand livre sur la formation de la France, qui montre qu'en fait, la France elle-même est un empire colonial qui n'a cessé de s'accroître, de grandir essentiellement par la force et en disciplinant des... Alors après, très tardivement, l'annexion de la Savoie est devenue le rattachement de la Savoie à la France, est devenue une réunion, etc. Mais il n'y a pas eu d'adhésion.
des populations. Voilà. Donc peu à peu, maintenant, ça s'est cristallisé. C'est les rapports de force figés dans le droit qui fixent les frontières. Mais s'imaginer qu'elles auraient un fondement naturel, je ne le crois pas. Et pour revenir à la question de Gratalou, je ne suis pas sûr que ces choses qui ont été historiquement construites doivent être historiquement éternelles.
Oui, tout est mouvant. Il faudrait regarder ça à d'autres échelles, de différentes manières, changer de perspective et comprendre que les choses sont plus complexes, plus larges. Est-ce que par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, Thierry Wirth, est-ce que ces fermetures de frontières, ça laisse passer les microbes et les virus? Qu'en pensez-vous, vous qui êtes épidémiologue, qui étudiez donc nos migrations à travers nos bactéries?
Bon, on a fait des analyses, mon équipe, notamment sur le Covid, hein, on peut en parler. En analysant les génomes de plusieurs milliers de virus, on a réussi à estimer que le fait de fermer les frontières va diminuer de 15% le fameux taux de reproduction, le R0.
D'accord.
Donc 15%, c'est quand même 15%. Mm-hmm. À titre comparatif, lorsqu'on nous ferme les écoles, c'est moins 26%. Donc c'est clair que dans ce genre de situation, avec une épidémie, avec une transmission aérienne, c'est clair que ça a un sens. Pour revenir à la question des migrations permanentes en hausse au niveau international, c'est un fait établi, ça a des conséquences qui sont multiples. Hein. Je veux dire, il y a des ruptures de barrières écologiques, ça veut dire aussi propagation de germes qui vont d'un environnement, d'un habitat naturel vers un habitat artificiel ou pseudo-artificiel. On va avoir la surexploitation des ressources, le changement climatique qui va aussi changer la distribution des vecteurs dans un axe nord-sud. Donc tout ça, ça impacte.
Mais qui va faire bouger les populations, migrer les populations, de fait.
Les motivations sont souvent économiques, sont écologiques aussi, hein, pas seulement purement intellectuelles ou monétaires. Hein. Donc tout ça joue un rôle énorme. Et moi, je trouve que la globalisation, le train qu'elle prend, c'est quelque chose qui me paraît pas tenable, surtout démographiquement sur le long terme. Je pense qu'il faudrait un petit peu savoir... aussi garder ses spécificités. On n'a plus beaucoup de spécificités, tout est un petit peu marchandé à l'échelle globale. Et moi j'aime bien, en fait, c'est une image un peu simpliste, mais moi j'aime bien aller dans un pays, rencontrer un groupe ethnique, manger ses plats à lui, connaître sa culture, et je ne vois pas un avenir brillant d'un monde un petit peu normé et complètement homogène. Ouais.
François Héran, ce serait quoi pour vous? Non pas un monde idéal, évidemment, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire autrement, justement, pour changer de regard sur nos migrations, pour avoir cette espèce de recul et voir que voilà, tout dépend de l'endroit d'où on se place.
Je crois d'abord qu'il faut faire des comparaisons, qu'il faut un peu sortir de soi, qu'il faut voyager, qu'il faut découvrir l'extraordinaire diversité de la France, y compris en Outre-mer. Hein. Il y a aussi, je pense, que la réflexion historique, la comparaison dans le temps est considérable. On a évoqué l'esclavage tout à l'heure, mais qui se souvient encore que Haïti actuellement est peuplé par les descendants de nos esclaves. C'était Saint-Domingue, et Saint-Domingue, c'était de très loin l'île la plus productrice, n'est-ce pas Et il faut se rendre compte qu'une part considérable des consommations que nous avons en ce moment, en fruits, en légumes, etc., ça vient des tropiques, ça a été acclimaté par le muséum, justement, que c'est pour pouvoir consommer du thé, du café, du sucre, du tabac, que nous avons esclavagisé des millions de personnes. Donc en fait, nous vivons dans un monde qui, en ce sens, est post-colonial ou post-esclavagiste, c'est-à-dire qui a généralisé, a fait circuler, a entretenu la circulation, l'acclimatation, la reproduction de quantités de plantes et de produits de par le monde, nos couleurs, nos fruits, nos légumes, etc. Et donc, alors, pour autant, c'est une diversification qui s'est opérée par ce biais et pas une homogénéisation. De la même façon que les plats ethniques qui se sont répandus un peu partout dans le monde, que ce soit le couscous, la pizza,
ou bon, le mafé.
Le mafé, bon, vous donne quelques points de repère comme ça, mais enfin, c'est pas ça qui a suffi à faire disparaître les gastronomies locales qui n'ont jamais été aussi florissantes. Donc, je pense que les généralités, enfin, le risque d'un monde homogène futur, je trouve que c'est
complètement surfait et que ça n'aime, même si on multiplie les circulations, même si on facilite les passages de frontières, nous n'allons pas vers un monde orwellien, certainement pas.
On continue de diversifier, voilà peut-être pourquoi vous avez eu envie, François Errant, d'écouter de la cora. Alors on vous a choisi un des plus inspirants joueurs de cora du Mali, Toumani Diabaté, en duo avec à la guitare le regretté Ali Farka Touré sur RFI, en clin d'œil au Mali qu'on aime et à nos auditeurs qui nous écoutent envers et contre tout à Bamako sur 98.5. Farka Touré, oui, je vais y arriver. Et Toumani Diabaté sur RFI, ça fait du bien par où ça passe. Merci François Errant pour cette envie de cora. Alors dans cette journée demain d'échanges et de travaux à l'Institut Convergence Migration autour de la question des sources des migrations, vous François Errant, vous allez conclure cette journée avec la fabrique des chiffres de l'immigration. J'ai l'impression qu'au fond, on ne cesse d'être dans des représentations, dans des fabriques de chiffres, hier qui nous arrangeaient, aujourd'hui qui nous arrangeraient, ou pas, mais qu'on est beaucoup dans des fantasmes, et qu'au fond, c'est pour sortir de ces fantasmes-là qu'il faut vous écouter.
Oui, mais là, bon, fabrique, c'est un peu un mot à la mode, on a peut-être cédé à la facilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la statistique des migrations, c'est une construction dont il faut bien connaître les principes, l'origine. Il y a des données administratives, il faut savoir comment elles sont construites. Et il y a des catégories, des classifications, il ne faut pas s'y laisser prendre. C'est un peu ça l'idée, mais en même temps, si elle n'était pas là, qu'aurions-nous sous la main? Alors, le colloque de demain, cette journée scientifique de l'Institut Convergence Migration, on va explorer bien d'autres sources. Par exemple, un collègue de l'École pratique des études va nous montrer comment la numismatique, c'est-à-dire l'étude des monnaies et la circulation des monnaies, quel rapport ça peut avoir avec la circulation des hommes. Il y a des aires d'influence des monnaies qui allaient parfois très très loin et parfois il y a des civilisations entières sur lesquelles la monnaie est à peu près la seule source d'information. Il y avait à ce moment-là un État souverain ou une ville-État souveraine qui frappait monnaie et cette monnaie a été prise dans des échanges commerciaux qui sont allés jusqu'à telle et telle rive de la Méditerranée ou de l'Atlantique.
Et oui,
c'est un exemple.
Un exemple, voilà. Un des seuls moyens de remonter le temps. Voilà. Sur les traces de nos migrations, voilà. Thierry Vite, parce que c'est ce que vous faites vous aussi, c'est changer de regard et remonter le temps. Alors grâce aux bactéries, grâce aux virus, grâce aux microbes qui ont inscrit l'histoire de nos migrations.
Oui, c'est un peu une des vertus de mon champ disciplinaire, c'est qu'au bout du compte, souvent, on travaille sur des choses qui sont assez ennuyeuses, AGCT, donc les quatre bases, mais en fait, après, on arrive à retracer comme ça des phylogénies, on se pose des questions à quel tempo ça correspond, à quelle époque. Je me souviens quand j'étais jeune chercheur à l'Institut Max Planck à Berlin, j'avais travaillé notamment sur le Ladakh. Donc on avait réussi à démontrer...
Cette région qui est entre le Népal et le...
Au nord de l'Inde, Donc on avait démontré à l'époque qu'on était capable de séparer les deux groupes ethniques, les bouddhistes et les musulmans. C'était impossible avec les marqueurs génétiques humains, mais on avait réussi avec la bactérie. Et du coup, je m'étais renseigné, j'étais allé à la bibliothèque à Berlin et j'ai commencé à lire l'histoire du Ladakh. Je ne la connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert qu'elle a été peuplée il y a 1000 ans, qu'il y avait des flux migratoires bouddhistes qui sont arrivés du Tibet. Enfin, c'est des choses qui viennent enrichir votre vie, au-delà du champ disciplinaire dans lequel on est spécialisé.
C'est vraiment une relecture.
Je dirais que il y a aussi des sources dont j'aimerais parler, évoquer rapidement.
Hyper rapidement, oui.
C'est le fait qu'il y a aussi les sources individuelles, les journaux de famille, les sources familiales, les historiens. citoyens les prennent en compte de plus en plus, la façon dont les personnes ont expérimenté la migration et l'ont eux-mêmes raconté, parfois à leurs proches simplement, et parfois dans des romans. Ou...
À bon entendeur, chers amis auditeurs et auditrices, à propos de toutes ces sources d'émigration, en tout cas merci infiniment François Errant et Thierry Vire d'être venus partager vos réflexions, vos interrogations, vos recherches. Échanges donc qui se dérouleront toute la journée demain à l'Institut Convergence Migration à Paris avec des chercheurs et chercheuses de toutes disciplines. Le lien sur l'Institut et sur notre page. Merci à Hugo Fiolas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous demain, chers amis auditeurs, à l'esprit libre et curieux, pour continuer justement de vous ouvrir à tous les possibles. Dans quelques instants sur RFI, c'est l'heure de votre journal.